Culture d'Islam par Abdennour Bidar. À tout seigneur, tout honneur, ou plutôt enfin, dans notre parcours entamé depuis quelques semaines du côté des musiques du sous-continent indien, il fallait nécessairement qu'à un moment ou un autre, nous écoutions la star du Qawwali, la star du chant indo-pakistanais, j'ai nommé le grand maître Nusrat Fateh Ali Khan. Nusrat Fateh Ali Khan avec nous aujourd'hui. On écoute du Qawwali, c'est, je vous le rappelle, le genre musical très populaire aussi bien en Inde qu'au Pakistan. On l'appelle Oustad, c'est-à-dire maître. Et il est donc l'un des plus grands représentants. Et je devrais parler au passé parce que, hélas, Nusrat a disparu en 1997, prématurément, à l'âge de 47 ans. Eh bien, il est donc l'un des grands maîtres, l'un des très grands interprètes virtuoses de ce genre musical, le Qawwali, qui aurait été créé au XIVe siècle par Amir Khosrau Dehlavi, qui aurait été d'ailleurs le compositeur des premiers ragas, et auquel on devrait excuser du peu également l'invention de ces instruments classiques de la musique hindoustanie que sont le tabla et le sitar. Bonjour à tous, on est sur France Culture, c'est l'heure de Culture d'Islam. On vient d'écouter un premier morceau de Qawwali, hein, de Nusrat Fateh Ali Khan. Un morceau à dimension sacrée, puisqu'il s'agit d'une oraison à l'imam Hussein. Et on écoutera dans la suite de l'émission des passages, des chants plus profanes, des chants d'amour, des khazals. On découvrira ça tout à l'heure ensemble. Pour l'instant... On est ensemble avec Moulay Bachir Belkaïd. Bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois pour un livre qui a un très beau titre, L'amour en islam, et qui a un sous-titre très inquiétant. Donc, L'amour en islam, de l'enchantement à l'étouffement. Et ben, je dirais que bon, le titre m'a intéressé, le titre est très beau, mais j'ai été évidemment tout de suite intrigué par le sous-titre, de l'enchantement à l'étouffement, parce que dans ce sous-titre, il y a toute la problématique que vous voulez aborder dans ce livre, à savoir le fait que, eh bien, comme vous le montrez à travers une très longue analyse historique, très documentée, très fouillée, eh bien, dans la culture de l'islam, dans sa culture littéraire, dans sa culture poétique, dans sa culture mystique aussi, on a eu pendant des siècles la célébration de l'amour, c'est-à-dire de l'art d'aimer et du droit d'aimer, et du droit d'aimer sous toutes ses formes. Hein, et puis à un moment donné, catastrophe, eh bien, dans cette culture d'islam, s'est perdu, assez récemment d'ailleurs, s'est perdu cette dimension et l'amour est devenu quelque chose de trop largement tabou, hein, qui n'avait plus droit de citer, en tout cas plus de la même manière, aussi libéré, aussi libéral dans la culture d'islam. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est ce panorama qui ne cède pas à la facilité, parce que vous auriez pu simplement vous contenter d'une célébration de cet art d'aimer dans l'histoire de l'islam et passer sous silence ce constat critique que vous faites au contraire à la fin. Est-ce que ça a été vraiment, et il me semble que c'est le sens de votre sous-titre, votre intention que de montrer que à la fois quelque chose a été exalté à un moment donné et quelque chose s'est perdu d'une façon dramatique pour la culture d'islam tout entière?
Ben effectivement, parce que c'est le sous-titre moi qui m'intéresse, et comme on vient de dire, ce constat, ben c'est est parti de la question que s'est-il passé au niveau de l'amour et au niveau de la femme en général. Il y a une des conditions qui misérables qui font que on sait que la langue arabe possède une centaine de mots pour nommer le mot amour.
C'est énorme, c'est une centaine de mots.
Énorme.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous en donner quelques-uns, nous les donner en arabe et nous les traduire, s'il vous plaît? Quelques-uns, vraiment. Parce que si vous dites une centaine, on ne va pas les réciter tous. Je signale au passage qu'il y a une centaine de noms pour dire l'amour, c'est autant et peut-être même plus que de noms de Dieu. Hein? Parce que des noms de Dieu, il y en a 99 plus 1.
Hein?
Plus
fait.
Allah, qui est le nom de majesté.
Donc il y a l'alaq, qui ça veut dire la liaison. L'araq, l'insomnie. Sharaf, la souffrance.
Alors attendez, l'insomnie. Quel est le rapport entre l'amour et l'insomnie? En quel sens est-ce que l'amour rend insomniaque?
C'est parce que l'état de l'amoureux, quand on est amoureux, la bien-aimée n'est pas là, donc on a du mal à trouver le sommeil.
Oui.
Et donc c'est par rapport
à
l'absence de l'autre.
Et, oui.
Et donc l'amour c'est toujours l'autre qui part, comme disait d'ailleurs Roland Barthes dans son livre Fragments d'histoire amoureux. Et cette absence cause un état d'insomnie, d'une part. Mais pour revenir au constat...
Au constat de ce que vous avez appelé des conditions misérables.
Misérables. C'est quand je rentre... c'est moi j'ai fait mes études ici, mais chaque année je rentre au Maroc. Et j'ai vu qu'il y a un changement. La femme qui était belle et coquette, la femme marocaine, et qui était libre de sortir avec une jupe, et d'ailleurs, je sais pas, il y a 2 mois, où il y avait une affaire de la jupe, je ne sais pas si vous avez entendu.
Et libre pas seulement de sortir en mini-jupe, mais libre de sortir près avec tous les vêtements possibles et imaginables.
Oui, hein. Mais quand j'ai fait mes études au Maroc, donc parce que j'étais jusqu'à la maîtrise, donc j'ai vu des femmes qui s'habillent en mini-jupe.
Oui. Vous êtes né à Marrakech, je vous ai pas présenté, pardon.
Où? Hein, oui,
vous êtes né à Marrakech, c'est ça?
Je suis né à Marrakech.
Vous êtes en France depuis plus de 30 ans?
C'est ça. Je suis venu pour faire mes études supérieures. Et après, donc, chaque année que je rentre au Maroc, donc, il y a un bouleversement des conditions de la femme. La femme n'est plus libre de sortir comme avant, mais elle est voilée de tête aux pieds.
Il y a dans le voile quelque chose qui vous travaille et qui vous inquiète singulièrement, qui vous choque même. Depuis des années, on s'est déjà interrogé sur la signification du port du voile dans culture d'islam. Vous avez écrit il y a quelques années un essai qui a pour titre « Le voile démasqué ». Hein, c'était déjà chez Éric Bonnier, comme le livre pour lequel je vous reçois aujourd'hui, dont je rappelle le titre « L'amour en islam, de l'enchantement à l'étouffement ». Alors je voudrais qu'on se précipite pas trop, si vous voulez, sur l'étouffement, hein, c'est-à-dire justement ce qui vous inquiète, c'est-à-dire ce qui s'est perdu, voir ce qui a dégénéré autour de la question ou des questions de l'amour dans la culture d'islam, liées, comme on vient de le comprendre, à ce que vous jugez être une dégradation de la condition féminine.
Tout à fait. Parce que ce livre, là, l'amour en islam, c'est en quelque sorte un prolongement du premier,
d'accord,
le voile démasqué.
D'accord.
Et j'ai montré dans le livre le voile démasqué comme quoi le voile n'est pas une spécificité islamique.
C'est-à-dire?
Ça n'a strictement rien à voir avec l'islam. C'est, historiquement parlant, une date de l'époque de Hammurabi, le 18e siècle avant notre ère. Et comme à l'époque, la société était divisée en deux, les nobles et les esclaves. Pour que les nobles se distinguent des esclaves, ils doivent porter le foulard. Et on ne sait même pas de quelle manière. Et l'islam, quand il est arrivé, donc cette pratique existait déjà.
Ah, donc ce que vous voulez dire, c'est que historiquement, le voile était porté par les femmes de condition noble, de telle façon que les gens de condition inférieure, dans la rue, ne puissent pas accéder à la vision de leur visage.
Tout à fait.
Censé être trop noble pour être vu par n'importe qui.
Tout à fait. Et la tradition nous rapporte que le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, a frappé une servante, une esclave, parce qu'il portait le voile.
D'accord. C'est-à-dire qu'elle, elle n'avait pas le droit cacher son visage.
Exactement.
Donc le fait de cacher son visage était le privilège d'une certaine aristocratie.
Tout à fait, c'est ça.
D'accord.
Le problème, c'est que donc, quand je suis rentré au Maroc, et donc je vois que c'est plus de belles femmes, mais c'est, on dirait que des corbeaux qui se promènent. Et là...
Ah, vous êtes sévère.
Non, mais c'est la réalité.
Vous êtes sévère aussi dans le livre, vous dites des fantômes, des corbeaux.
Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai jamais vu, enfin quand j'ai vécu quand même au Maroc jusqu'au 87, j'ai jamais vu une femme porte la burqa ou la tenue intégrale. Je ne l'ai jamais vu. Et quand je suis rentré dans les années 90, des années 2000, j'ai dit, mais et là, donc c'est cette image qui m'a interpellé.
Bien sûr, bien sûr.
Alors... Et tu m'as interpellé et je me suis dit, que s'est-il passé?
Que s'est-il passé, effectivement. Alors, avant de savoir ce qui s'est passé, moi je voudrais qu'on s'interroge sur ce qui s'est passé avant, ou sur ce qui avait lieu avant.
Oui.
Hein, et c'est d'abord le premier mérite de votre livre, qui est très riche, que de nous faire faire un petit voyage dans l'histoire, et que de nous rappeler des époques dans lesquelles, eh bien, le rapport entre les hommes et les femmes était beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré, beaucoup plus libéral. Et on a eu, aux époques classiques de l'islam, de grands poètes, notamment, hein, ou de grandes figures de la littérature, qui ont célébré l'art d'aimer sous toutes ses formes. On va pas tous les citer, mais on va s'arrêter sur quelques exemples. Il y en a un en particulier, un ou deux, sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête. Le premier, dites-moi si je dis une bêtise, on est au 9e siècle, c'est Abu Nawas.
Abu Nawas.
Alors Abu Nawas, Malek Shebel, par exemple, écrit dans son livre sur l'imaginaire arabo-musulman, il écrit ceci, voilà comment il le décrit. Il dit Abu Nawas, 9e siècle donc, de notre ère, incomparable jouisseur, hérétique, libre penseur, Abu Nawas est resté dans les annales de la philosophie arabe en raison de la liberté de ton avec laquelle il a abordé les thèmes amoureux en général et ceux de la pédophilie en particulier. Alors, bon, personnellement, là, je pense que Malek Shebel a la main un peu lourde. C'est peut-être pas forcément ce qu'on entend aujourd'hui par pédophilie, mais c'est l'amour des jeunes gens.
Hein. Tout à fait, les
faibles. L'amour des jouvenceaux, Hulmaniyat, c'est ça?
En arabe.
Voilà.
Exactement.
Bon, c'est un exemple, hein, cette célébration de l'amour pour les jouvenceaux, mais immédiatement, ça nous conduit dans un temps où toutes les formes d'amour avaient le droit de se dire, il n'y avait pas de censure. Il n'y avait pas censure qui venait de la morale commune ou qui venait de l'ordre religieux. Et quelqu'un comme Abu Nawas a pu, alors probablement de façon assez relative, hein, on imagine qu'il a bien dû être inquiété à un moment ou un autre, mais en tout cas célébrer dans ses poèmes des formes d'amour très en dehors des normes strictes d'une morale rigoureuse. Hein.
Parce que Abu Nawas aussi, il ne faut pas oublier qu'il était l'ami intime du calife l'Amin.
Ah, ça peut servir d'être l'ami intime d'un calife, hein, quand on veut écrire librement.
Calife, voilà, et apparemment le calife l'Amin était un homosexuel. Et donc sa mère, parce que pour lui c'était un handicap pour le pouvoir, et sa mère, il lui a envoyé des filles habillées
en garçon.
Et c'est là que devient la Rilman, la Rilmaniyat.
Expliquez-nous.
Parce que Rulmani, c'est le féminin de Roulam.
Oui.
Et donc, habillé en garçon pour que lui, il s'habitue aux filles, à la fois.
Voilà.
Et donc,
Abu Nawas... Donc, il pouvait compter sur sa maman, hein, pour l'aider à prendre le pouvoir, en tout bien, tout honneur.
Et Abu Nawas, donc, il traduit, enfin, il capte, en fait, cette image de cette... Donc, et tout, effectivement, était libertin. Avec le vin, avec les filles, il était en avance même sur son époque.
Il était en avance sur son époque, mais il était dans une époque dans laquelle il était possible de célébrer, alors vous avez dit, des amours libertines, hein, et puis, justement, cette homosexualité. Alors vous citez des vers d'Abu Nawas qui sont particulièrement explicites. Hein. Alors, je vais en citer deux, j'espère que je ne vais pas choquer les bonnes âmes, hein, et les oreilles sensibles. Abu Nawas dit par exemple, alors vous dites qu'on l'a appelé le Verlaine arabe, hein, du 8e siècle, 8e, 9e siècle.
8e, oui.
Hein, bon.
813.
Voilà, donc plus 9e siècle. Hein. L'homme est un continent dont la femme est la mer. Or, moi, ce que j'aime, c'est la terre ferme. On va quand même le répéter pour la bonne bouche. L'homme est un continent dont la femme est la mer. Or, moi, ce que j'aime, c'est la terre ferme. Et alors là, ça y est, l'imagination commence à travailler. Qu'est-ce que c'est que cette fermeté, hein? Cette fermeté qui est une allusion à peine déguisée à la virilité masculine. Et il aggrave son cas dans un autre poème. Je vous le lis, hein. Il y a des allusions à la virilité masculine qui sont à peu près transparentes. Il décrit un éphèbe. Cette lune en son plein qui accroche un flambeau, c'est son visage clair dont s'approche un calice. Tout armé par l'amour, il lève un regard beau, une lame royale au sourire épais lisse. Le sourcil et son arc, l'œil décroche ses traits et la lance des cils vous menace en retrait.
C'est beau.
Voilà, c'est beau et puis c'est à la fois très allusif.
Mais ça, on trouve aussi parce que ça, c'est l'éloge de la beauté. C'est parce que même, il faut savoir que la beauté dans l'islam est quelque chose d'extraordinaire. Dieu, il se définit comme beau dans un dire prophétique. Dieu est beau et aime la beauté.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, il y a une histoire d'une fille qui s'appelle Aïcha bint Talha qui était, sur la question de voile, elle était belle. Et son mari demande toujours qu'il soit voilé. Et elle lui dit non. De quel droit? Alors que cette beauté, c'est Dieu qui me l'a donnée. Et j'aime bien que les gens regardent cette beauté. Voilà aussi une autre histoire. Moi, j'aime bien que les femmes d'aujourd'hui s'inspirent de cette femme.
C'est-à-dire qu'elles mettent en valeur la beauté comme un cadeau. Alors, certains diront de Dieu, d'autres diront de la nature.
Oui, hein? Peu importe. Peu importe la, nature ou de Dieu, mais en tout cas, la beauté, c'est... Elle a réussi à mettre sa beauté en valeur.
Et ce qui vous choque, justement, vous, c'est cet emprisonnement de la beauté, hein?
Ben, la beauté, c'est quelque chose de... c'est de la grâce. Déjà, regarder un beau visage, regarder quelque chose qui bosse ici, elle a un effet psychologique.
Bien sûr, bien sûr. Donc, alors, regarder un beau visage, apprendre à voir la beauté dans tout visage également.
Exactement.
Parce qu'on peut avoir aussi un rapport à la beauté qui est, je dirais, un peu primaire ou brutale, c'est-à-dire considérer qu'il y a des femmes qui sont belles et d'autres qui ne le sont pas, alors qu'en réalité, la possibilité de regarder tout visage, masculin et féminin, est une opportunité donnée chaque jour d'apprendre à voir la beauté là où peut-être on ne l'attend pas ou on ne l'aperçoit pas spontanément. La beauté dans l'éclat d'un regard, dans la vivacité d'une expression.
Exactement, hein, dans le sourire.
Dans la sensibilité d'une attitude de pudeur ou dans un éclat de rire, etc.
Tout à fait. Ça, c'est une culture. Apprendre, effectivement. Cette culture, elle a commencé avec les raffinés. Elle a commencé déjà avec les raffinés.
Avec ces hommes raffinés, avec vous dites
Parce qu'il y a un mouvement, ça s'appelle Dourafa. Ils apprennent aux gens comment s'habiller, comment se mettre en valeur, comment se parfumer, comment... Ziryab était l'un des maîtres de ce qu'on appelle Dourafa. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on voile une femme... Pour moi, c'est projeter la part sombre.
Qu'est-ce que vous appelez la part sombre?
Cette part sombre, c'est-à-dire tout ce qui est noir, tout ce qui est gris, tout ce qui rend l'être humain méchant.
Ou terne, en tout cas.
Et oui, c'est ça. Parce que voile une femme, ça veut dire quoi? C'est cette part inquiétante qui ronge l'être humain, mais qui n'arrive pas à se débarrasser d'elle. Et donc, on projette sur l'autre. Et en l'occurrence, la femme.
Oui, oui, oui. Alors... Les poèmes d'Abu Nawas, il y a d'autres exemples, les quatrains d'Omar el-Khayyam, etc. Toute cette poésie classique qui célèbre l'art d'aimer en islam est tellement proliférante qu'on peut en dire, à mon sens, deux choses. D'abord, c'est qu'il y a eu probablement, à ce moment-là de l'histoire, là on est par exemple, on l'a dit, avec Abu Nawas au 9e siècle, un contraste avec une civilisation occidentale qui, elle, même s'il y avait, pour notre Moyen-Âge, la célébration de l'amour courtois, a été beaucoup plus prudente et presque frileuse dans sa célébration de l'art d'aimer. Donc, à ce moment-là, la civilisation arabe était en avance, d'une certaine façon, justement, du point de vue de sa capacité à une libéralité qui, du côté chrétien, était beaucoup plus encadrée.
Tout à fait.
Et puis, la deuxième chose, c'est que elle a été, cette libéralité arabe dans la célébration de l'art d'aimer, elle a énormément inspiré nos penseurs occidentaux, et on a des descriptions de cet art d'aimer qui sont très fortes. Alors, je pense par exemple à un autre livre, tout à l'heure je citais Malek Chebel, vous citez par exemple Frédéric Lagrange, qui écrit en 2008 un livre qui a pour titre « Islam interdit ».
Oui. Oui.
Donc je le signale à nos auditeurs, parce que voilà, ce sont des lectures qui nous renseignent énormément sur la richesse de cette poésie arabe. Frédéric Lagrange, « Islam interdit, islam de jouissance ». Alors là, vraiment, l'expression nous surprend totalement, ça relève presque de l'oxymore, « Islam de jouissance », c'est très inattendu aujourd'hui. Et il dit que ces poèmes d'Abou Nawas, etc., revendiquent un droit au plaisir. Et alors, au plaisir, lui, il le met au singulier, il faudrait le mettre au pluriel si on est attentif à la suite de sa phrase. Un droit au plaisir pluriel du vin, de la chair, d'un baiser dérobé, d'un accroche-cœur caressé, d'une rose respirée, d'une coupe dégustée, d'une œillade lancée, sans pour autant mentionner un acte interdit ou une partie dérobée du corps masculin et féminin. Et précise-t-il, on est dans un versant subversif, plus subversif que le discours obscène, parce que ce ne sont pas des discours pornographiques, ce sont pas des discours qui disent les choses crûment, ce sont des discours subtils, vous disiez, des discours raffinés, qui parlent par allusion, et qui, de ce fait-là, ont une puissance subversive. Ces dimensions, je dirais, sociales et politiques importantes que ces pouvoirs de subversion.
Ce qui permet cette libéralité dont vous faites allusion, c'est que elle avait comme soubassement la raison. Et le Colmo Tazilite. Et qui a créé toute une atmosphère. On avance.
D'accord. Alors, les Moutazilites, la première école, on va dire philosophico-rationaliste de l'islam dès les deux ou trois premiers siècles de l'Égypte.
Et l'Empire, donc, était en plein. Rien ne vient, parce qu'il n'y a pas de trouble à l'extérieur, il n'y a pas de trouble même. Un peu à l'intérieur, mais bon. Mais généralement, c'était ça. C'est parce qu'elle avait comme base la raison. Et la deuxième chose aussi, c'est parce que la langue arabe, il se caractérise parce que ce qu'on appelle l'éloquence, le balara.
Et alors là, l'éloquence qui s'en donne à cœur joie.
Oui, à cœur joie. Donc ici, le balara, c'est quelque chose qui... je ne sais pas s'il y a d'autres langues, je ne veux pas être sectaire, mais qui possède cette qualité.
Est-ce qu'on peut dire que, parce que si on veut mettre l'éloquence en rapport avec la célébration de l'art d'aimer, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une érotique particulière des sonorités et de la musicalité de la langue arabe?
C'est ce qui caractérise d'ailleurs la poésie arabe. Et même aussi, à cette époque-là, on commence aussi à déserter. Et d'ailleurs, je l'ai évoqué dans mon livre, c'est sur la prose. On commence à écrire aussi sur sur l'amour. C'est-à-dire que l'amour, il n'est plus la propriété privée de la poésie, mais il y a la prose qui intervient et qu'on commence à disserter sur la pourquoi aussi. Et ça, c'est parce qu'aussi, il y a une question morale, c'est pour protéger aussi le pouvoir, parce que est-ce que la question qui se posait à l'époque, est-ce que le calife a le droit d'aimer et ne pas être aussi victime de l'amour? Parce que l'amour, il peut aussi passer d'une position à l'autre.
C'est-à-dire,
il peut être de nombre à l'esclave.
Il peut faire perdre la tête.
Exactement.
Et un gouvernant ne peut pas se permettre de perdre la tête.
Tout à fait, c'était ça. Et donc, il Jahid, donc c'est lui qui a avancé cette thèse. C'est-à-dire, et après, donc, il y a aussi le Jamaluddin Bunshir, qui est dans un article dans Qantara, il va dans ce sens-là.
Alors, je disais une érotique de la langue arabe, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Je voudrais, si vous trouvez l'idée intéressante, je voudrais qu'on développe un peu. Qu'est-ce qu'on appelle une érotique? C'est quelque chose qui excite le désir, ou qui met dans un état qui est un état de frisson et un état d'effervescence intérieure. Donc, il y aurait dans l'éloquence de la langue arabe, à cause de ses sonorités, quelque chose qui produirait un effet de chaleur, si vous voulez, sur nos affects. Est-ce que vous partagez cette idée?
Oui, mais je la partage, mais entièrement. Parce que maintenant, malheureusement, on n'entend que le discours juriste ou le discours fiqhiste, qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Donc la langue arabe, aujourd'hui, c'est le permis, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, point. Mais à l'époque, c'est même pas la question des permis. Le licite et l'illicite, c'était pas évoqué. Mais entre les deux, d'ailleurs, il y a une marge, une grande marge. Et c'est là où il y a cette richesse de la langue arabe d'aller chercher et produire aussi le vocabulaire qui correspond au sentiment qui vient de l'intérieur.
On essaie de situer le rapport d'Abou Nawas à la religion, hein, et on se pose quand même la question, on se dit mais il n'a pas été victime de censure. On a lu des vers dans lesquels il se montre assez poète ou assez malin, bon, peut-être que les deux vont de pair, pour dire les choses de façon allusive, hein, mais à d'autres moments il est beaucoup plus net, et vous le citez, à un moment donné il dit « je suis pécheur, je le sais bien hein, », et donc il revendique cet état d'irreligion ou ce droit de se situer en dehors des normes de la religion. Comment est-ce que ça passait, ça, à l'époque, ce type de discours?
C'est ça ce qui caractérise l'islam du livre, ce que j'appelle l'islam du Coran. Parce qu'il y a l'islam du Coran et il y a l'islam tel qu'il s'est constitué au fil des âges et les époques. L'islam du Coran, c'est personne... Comme disait d'ailleurs le Coran, ومن يعمل مثقال ذرة خير يراه ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه. C'est-à-dire quiconque commet le point d'un autre homme d'un mal le verra. Et quiconque.
Attendez, vous parlez trop vite. Qui a commis le mal, voilà, du poids d'un atome le verra.
Oui, du mal le verra et du bien le verra. Et c'est ça ce qui est intéressant dans l'islam. C'est cet individualisme. Et que l'individu ne doit à personne, quoi que ce soit, sauf à Dieu. Et Dieu, il est compatissant. Il est clément. Et d'ailleurs, tous les sourates, sauf la 9e, commencent au nom de Dieu, clément, miséricordieux. C'est cette clémence que Dieu peut accorder. Voilà. Et donc, on peut être pécheur, mais en même temps, bon, à la fin, c'est à la fin de la vie d'Abou Nawas qui demande miséricorde. Au nom de quoi Dieu peut le refuser?
Ce que vous dites, c'est que dès le Coran, on a un texte qui insiste sur l'individualisme, sur la responsabilité personnelle.
Tout à fait.
Et sur la liberté de choix de l'individu de conduire sa vie comme il l'entend. Et à partir de là, qui dit choix dit droit, sur le droit de tel individu, eh bien, de mener cette vie qu'a menée Abou Nawas, qui était libertin, qui était homosexuel. Franchissait la limite des interdits religieux, etc. Vous avez cité le Coran. Je m'attendais plutôt à ce que vous citiez quelques beaux vers en arabe d'un grand poème que vous aimez plus particulièrement. Hein, c'est possible, ça?
Oui, mais malheureusement, je ne l'ai pas en tête. Oui, Abou Nawas, d'autres aussi. Abou al-Ala al-Mahri, il y a d'autres, mais malheureusement, je ne l'ai pas en tête. C'est juste que je vais revenir aussi sur une question qui me tient au cœur. Quand je dis que l'islam, donc, effectivement, la responsabilité individuelle, souvent on traduit le mot islam par soumission.
Oui.
Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre, L'islam sans soumission.
Oui, pour montrer qu'effectivement, on va peut-être un peu vite. Il y a peut-être un raccourci, là, un peu à la fois faux et fâcheux. Hein.
Mais moi, j'ai montré comme quoi la traduction du mot islam par soumission, c'est faux. Mm-hmm, et archi faux. Mm-hmm. Parce que le mot islam dérive du substantif islama. Mm-hmm. Le hamza, c'est-à-dire le a, la particule là, selon les grammairiens arabes, porte des sens dans autre, d'où le fichier i. C'est-à-dire, comme on dit par exemple, araqa wa ashama se rendre en Irak, pas en ce moment. Et ça veut dire, par rapport à le mot aslama, c'est-à-dire se convertir à, et c'est pas se soumettre. Et c'est là où il y a l'erreur. Mm-hmm. Parce que l'islam, ça veut dire élévation.
Mm-hmm. Ça veut dire et élévation soumission, et pas soumission.
Voilà. Mm-hmm. Et Dieu, de la première sourate jusqu'à la dernière, mm-hmm. j'ai lu le Coran, je ne sais pas combien de fois, j'ai jamais trouvé que Dieu demande aux fidèles, mm-hmm. aux croyants, de se soumettre. Par contre, il lui demande de reconnaître son unicité. C'est l'objet essentiel mm-hmm. du discours coranique. Mm-hmm. Donc, la traduction du mot islam par soumission, en fait, arrange qui ? Arrange le pouvoir.
Et là, en l'occurrence, on a, avec ces poètes de l'âge classique, que vous étudiez, de beaux exemples d'insoumission.
Hein. Oui, voilà, entre autres.
Voilà. Qui n'était pas peut-être d'ailleurs, contrairement à ce que l'on disait tout à l'heure, alors en parlant du cas d'Abou Nawas, qui n'était pas forcément de l'irreligion, mais peut-être la revendication d'un rapport beaucoup plus libre à la religion, fondé justement sur le principe de responsabilité personnelle qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, il y a une autre période, un peu plus tardive, sur laquelle vous vous arrêtez longuement, puisqu'on a dit qu'avec Abou Nawas et autour d'Abou Nawas, on était au 9e siècle de notre ère. Là, deuxième période à laquelle je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu, c'est la période d'Ibn Arabi, c'est-à-dire la grande période du déploiement et de la construction du discours mystique en islam, parce que là, on va avoir une mutation, une mutation importante du discours sur l'amour, qui va être utilisée par la mystique. Parce que la mystique d'Ibn Arabi, alors pour nos auditeurs, je précise, on est au XIIIe siècle.
XIIIe siècle. Hein.
Pour la mystique d'Ibn Arabi, ce qui est intéressant, c'est que l'amour, sous toutes ses formes, c'est le sentiment amoureux ou le désir, le rishq, c'est-à-dire le désir ardent que l'on ressent pour quelque chose. Et la meilleure expression, c'est pas seulement une image, hein, la meilleure expression du désir que l'on doit et que l'on peut ressentir pour Dieu, dans une démarche mystique qui est décrite par des sages et des penseurs comme Ibn Arabi, l'union avec Dieu comme un désir pour l'âme de se retrouver elle-même.
Hein. C'est ça, c'est ce que Ibn Arabi appelle, ou les mystiques en général, al-fana, l'anéantissement du sujet humain, donc le sujet divin.
Voilà, l'extinction de l'homme en Dieu, et qui serait donc produite ici, cette extinction, par la brûlure extrême du sentiment amoureux. Si l'être humain arrive à ressentir de toutes ses forces un amour irrésistible pour Dieu, alors, et c'est le vocabulaire même en français de l'amour, il se consume dans amour, et dans le fait de se consumer, il y a le fait de se perdre en tant que l'on est un égo séparé du divin et de se retrouver en tant que l'on vit en Dieu. Donc là, on a la naissance d'un grand thème mystique hein, qui est la vie en Dieu, l'union à Dieu, l'extinction à Dieu, l'union à Dieu et la vie en Dieu.
Ibn Arabi, enfin, le mouvement mystique en général, c'est parce que pour eux, même le monde est la manifestation divine par amour.
Oui.
Et c'est pas par qu'une, c'est par amour. Dieu a créé le monde par amour. Et c'est là aussi ce qui est bien chez les mystiques, c'est qu'il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas l'homme, la femme, donc non. Le monde dans sa manifestation, c'est Dieu par excellence.
Voilà, toute forme
est, par excellence.
Voilà, toute forme est une manifestation de l'amour de l'amour divin.
C'est ça. L'Hillaj, Rabi al-Adawiya au Bagdad qui court dans les rues de Bagdad avec une tranche, avec un seau d'eau.
Une torche et un seau d'eau.
Voilà, pour brûler le paradis et éteindre l'enfer pour le casse que Dieu, pour qu'est-ce que l'existence en fait.
Oui, oui, elle disait, Rabi al-Adawiya, elle disait, moi, ni le paradis, ni l'enfer ne m'intéressent, donc avec ma torche, je vais mettre le feu au paradis, avec mon seau d'eau, je vais éteindre l'enfer, parce que tout autre amour que celui de Dieu est pour moi quelque chose qui me disperse et qui ne m'intéresse pas. Hein. Et Ibn Arabi donc précise, alors, vous le citez, hein, c'est dans son traité de l'amour, hein, il dit la chose suivante, je ressentis moi-même l'extrême subtilité que l'on peut trouver en amour. Je crois que cette phrase est importante parce que elle explicite une intuition. L'intuition qu'il y a quelque chose pour le mystique à chercher du côté de l'amour parce que c'est l'état d'amour. Et c'est seulement l'état d'amour qui peut produire dans l'âme un tel effet d'intensité que, à ce moment-là seulement, c'est-à-dire à la condition de nouer une relation amoureuse avec Dieu, eh bien, on peut parvenir à cet état d'union mystique. Et il dit, tu éprouves, alors il s'adresse à quelqu'un qui veut suivre cette voie mystique, il lui dit, tu éprouves une affection intense, une passion pénétrante, un désir ardent, une emprise d'amour, un épuisement total, un empêchement de dormir et de savourer la nourriture, tu ne sais plus en qui et par qui cela arrive, ton bien-aimé ne se montre pas à toi d'une manière distincte, eh bien, telle est la grâce la plus délectable que j'ai ressentie par expérience directe.
Et ça, Ibn Arabi arrive à saisir quand même le paradoxe de l'amour. Parce que le paradoxe de l'amour, c'est que nous possédons quelque chose qui nous possède. Et c'est ça d'une manière subtile. C'est que nous, êtres humains, nous possédons l'amour, quelque chose qui nous possède, le sentiment. Ibn Arabi arrive à saisir ce paradoxe de l'amour.
Il montre, c'est ça qui est très subtil et simple en même temps, il montre que l'amour est quelque chose de très humain, de très sensible, mais qu'il y a dans cette chose très courante, très humaine, très sensible, ce sentiment qu'on peut tous ressentir et qu'on ressent tous d'ailleurs, quelque chose qui nous conduit complètement ailleurs. Parce qu'on est possédé, et qui dit possédé dit emporté, et on ne sait pas jusqu'où on est emporté en réalité. Donc il y a de la transcendance dans l'amour, il y a l'expérience d'une transcendance dans l'amour.
Oui, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Parce que l'amour nous projette hors de nous-mêmes, vers l'autre, vers l'ailleurs, vers l'absolu. Et c'est ailleurs, donc parfois, le mystique il reste muet devant la majesté de l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parole, qu'il n'y a plus de... Et donc pour lui, il le pratique, il le vit, parce que même tout langage... est incapable de décrire l'expérience amoureuse.
Oui, le langage est impuissant, et c'est pour cela qu'il n'y a finalement que la poésie qui peut s'approcher un peu, par son art de l'allusion, etc.
Il y a la rigueur, parce que en recourant aux métaphores et même si et d'autres outils, donc est-ce qu'il arrive vraiment à saisir parfois le mystique qui se tait et le silence est plus éloquent que la parole dans ce cas d'aimer.
Et d'ailleurs, ça correspond à quelque chose qui est caractéristique de l'état amoureux, même le plus simple. On est muet d'amour. C'est-à-dire que on éprouve toujours, dans le sentiment d'amour, le fait que les mots sont trop faibles, même quand on dit « je t'aime ». Pourquoi est-ce qu'on répète « je t'aime, je t'aime » On le répète parce qu'on est le mot n'épuise pas le sentiment, il ne dit pas et trahit même la puissance du sentiment. Donc là encore, l'amour nous amène du côté de ce que j'appelais la transcendance, c'est-à-dire du côté de quelque chose qui dépasse, qui nous dépasse, qui dépasse les possibilités du langage. Alors, là, on a été du côté, rapidement, trop rapidement, sans doute, du côté des mystiques. Je vous invite à lire ce livre de Moulay Bachir Belkaïd, « L'amour en islam, de l'enchantement à l'étouffement ». On peut peut-être quand même en arriver un peu à l'étouffement, bon, même si c'est pas très agréable d'être étouffé, mais c'est ce que vous ressentez. Vous dites que par rapport à ces célébrations sensibles et mystiques de l'art d'aimer, aujourd'hui, la civilisation... peut-être pas musulmane dans son ensemble, mais au moins du côté arabe, eh bien, elle est en crise. Vous employez le terme de crise.
En ce sens que quand on voit la tradition arabo-musulmane au niveau d'amour et ce qu'il a produit, et quand on voit l'état dans lequel le monde arabe vit aujourd'hui, partout il y a la guerre, la violence, c'est dans ce sens, oui, il y a une crise. Le deuxième aspect, quand on voit que la langue arabe possède une telle richesse sémantique pour dire le mot arabe et que le jeune aujourd'hui dire n'arrive même pas à dire à une fille « je t'aime », c'est quand même, il y a une crise quelconque, ou quelque part. Quand on voit qu'une fille qui s'habille au mini-jupe et qu'il faut tout un... c'est ce qui s'est passé malheureusement au Maroc au mois de juillet, et puis... Elle dit qu'il y a une crise. Quand on voit que la voile et la femme de la tête aux pieds pour soi-disant passer ça les valeurs de l'islam, non. Je suis désolé, ce n'est pas ça les valeurs de l'islam, non.
Alors, ce que vous dites, votre thèse, enfin en tout cas si je l'ai bien comprise, votre thèse majeure dans le livre, c'est que cette crise de l'art d'aimer est due essentiellement à l'irruption et à la généralisation d'une situation de domination masculine.
Oui.
Et vous dites de façon sévère qu'il est probable que cette domination masculine est due au fait que beaucoup d'hommes dans cette culture aujourd'hui ont un problème avec leur virilité.
Exactement.
Ont un problème avec leur virilité. Vous dites que, par exemple, écouter une femme et traiter une femme ou considérer une femme à égalité serait le signe d'une virilité qui est une virilité sereine, qui est une virilité sûre d'elle-même. Alors que le fait de dominer, de vouloir dominer les femmes, et le fait de vouloir les inférioriser en leur imposant un vêtement qui les cache, etc., eh bien c'est le signe, au contraire, que cette virilité est une virilité qui n'est plus du tout sûre d'elle-même. Vous dites par exemple, écouter une femme, c'est en fait rompre avec la domination masculine qui travaille consciemment ou inconsciemment la mentalité arabe. Et vous allez même plus loin en disant que la virilité, en tout cas une virilité qui s'affirme de façon machiste, de façon dominatrice, en refusant quelque chose de l'altérité féminine, en refusant quelque chose de l'altérité féminine, vous dites que cette virilité est l'aspect manifeste de la peur à l'égard non seulement de la femme, mais de la sexualité féminine. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ?
Dans l'imaginaire arabo-musulman, il y a deux notions pour la femme. Soit la sainte, c'est-à-dire mère, épouse, soit la courtisane, avec qui on peut y aller plus loin. Mais en dehors de cet aspect-là, il n'y a pas la femme en tant qu'être. Ça, d'une part. Pour rompre avec ça, il faut d'abord... C'est quoi la démocratie ? La démocratie, c'est écouter l'autre.
Oui, et parce que vous dites qu'il y a une dimension politique de tout ça.
Oui, tout à fait. Et bien, écouter l'autre, ben, écouter son épouse, écouter son partenaire, la considérer, c'est un geste, c'est peu, mais il est considérable. C'est considérable avec le temps. Et ça, c'est parce que c'est une culture, c'est une éducation. Il faut apprendre à écouter aussi. Tout ça nous ramène à la sexualité. Parce que la sexualité féminine, comme on n'a pas des études sur la loi et la sexualité, il n'y a que des travaux fragmentaires, etc. On n'a aucune, moi, d'après ma connaissance, je ne connais pas une étude, il faut une société maghrébine ou moyen-orientale qui demande des recherches et des études systématiques sur la sexualité et sur la... Et pourquoi il y a quand même il y a un problème. C'est parce que la sexualité, c'est la caractéristique de la société patriarcale. Il faut que l'homme soit dominant, il faut que... Donc,
où la sexualité féminine est représentée comme quelque chose de fantasmatique,
ben oui, parce que
c'est-à-dire comme une espèce de puissance incontrôlable qu'il faut à tout prix justement mettre sous un carcan.
Sous contrôle. Parce que la société patriarcale, elle repose sur deux choses. La première, c'est la lignée de père en fils, etc. Et la chasteté féminine. Mais à partir d'un moment... Ou la chasteté, par exemple, si les garçons ont le droit, de voir les filles, avoir un rapport sexuel même, si c'est un droit. Ce n'est pas une transgression de normes mises en place. Non, c'est un droit. Mais comme on n'a pas éduqué les filles et les garçons à se rencontrer, parce que ça existait dans la tradition arabo-musulmane, même avant. Avant l'époque jaïle, l'homme côtoie les femmes, etc. Mais c'est ce manque d'éducation.
Ça, c'est très important. À un moment donné, dites-vous, dans cette civilisation arabe, on a arrêté d'éduquer ou de cultiver à la rencontre et à la fréquentation.
Exactement.
Voilà. Et à partir de là, les choses de l'amour, et en particulier la sexualité, sont devenues quelque chose de très compliqué, parce que, à partir du moment où l'homme et la femme n'ont plus d'éducation à la rencontre, la sexualité devient quelque chose qui est complètement fantasmé.
C'est le seul moyen pour contrôler la société.
Tabou.
C'est ça. Pourquoi ? C'est parce que c'est le seul moyen pour contrôler et surveiller la société. C'est la sexualité.
Vous faites référence justement au titre de Michel Foucault.
Vous dites, survie et punir.
Voilà, dans le monde arabo-musulman aujourd'hui, et pour paraphraser le titre du livre de Michel Foucault, je dirais que l'amour, donc dans les sociétés arabo-musulmanes actuelles, est une affaire à surveiller et punir. Alors que, comme l'avait noté Feu Bencher, l'amour est une culture.
Hein. Oui.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein. Je vous remercie beaucoup, Moulay Bachir.
Je vous remercie de m'avoir invité. C'est...
Je cite encore le titre de votre livre, L'amour en islam, de l'enchantement à l'étouffement. On n'a pas beaucoup parlé de l'étouffement. Nos auditeurs nous pardonneront peut-être d'avoir été un peu rapide.
Une autre fois.
Mais c'est encore mieux d'avoir parlé de l'enchantement, non?
Déjà. Hein? Déjà.
Voilà, donc oui. On va essayer de retrouver de l'enchantement.
D'accord.
Voilà, et pour retrouver un peu d'enchantement, eh bien, je vous propose de repartir du côté de Nusrat. Nusrat Fateh Ali Khan, le virtuose, la grande star, hélas, disparue du Qawwali. On écoute Nusrat Fateh Ali Khan qui chante un extrait du Javed Nama, un très grand livre du saint soufi, penseur, philosophe Mohamed Iqbal, traduit en français sous le titre de « Le livre de l'éternité ».
हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते क्या तुझको जहां वाले सितमगर नहीं कहती कहती तू है लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहती कहते तू है लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते ہر ایک سجدے کو کہتی ہے عبادت میں خانے میں ہر جام کو ساغر نہیں کہتی کعبے میں مسلمان کو بھی کہہ دیتی ہے کافر میں خانے میں کافر کو بھی کافر نہیں کہتی میں خانے میں کافر کو بھی کافر सद चाक को सी सकता हूं महरूम करम हो के भी जी सकता हूं मौकूफ नहीं जाम परिंदी मेरी साकी तेरे गुस्से को भी पी सकता हूं साकी تسلیم ہے شرابی ہوں پھر بھی فطرت عجیب پائی ہے میں نظر سے شراب پیتا ہوں میری رندی بھی پارسائی ہے میں نظر سے شراب پیتا ہوں میری فکر سود و زیان تو چھوٹے گی منت ای نوان تو چھوٹے گی خیر دوزخ میں میں ملے نہ ملے شیخ صاحب سے جان تو چھوٹے گی ہم اپنی شام کو
On vient d'écouter un ghazal de Nusrat Fateh Ali Khan. Hein, il est accompagné, on l'a entendu derrière, par un harmonium, par des tablas. On a également d'autres chanteurs qui frappent dans leurs mains. Et puis on a la voix virtuose du grand Nusrat Fateh Ali Khan. Un ghazal, donc un chant plus profane que ce qu'on a écouté au départ. Un ghazal qui célèbre la grande tradition de l'amour en islam dont on a parlé dans la première partie de l'émission avec Moulay Bachir Belkaïd. Vous êtes sur France Culture, c'est l'heure de Culture d'Islam. Et comme d'habitude, maintenant, à ce moment-là de l'émission, eh bien, je vous propose une grande phrase de la tradition intellectuelle de l'islam que je ne suis pas allé chercher très loin. Aujourd'hui, je suis resté dans le droit fil de ce dont on a parlé tout à l'heure au sujet du livre de Moulay Bachir Belkaïd, L'amour en islam, puisque je suis allé chercher une parole d'un philosophe, poète musulman du XIe siècle, un philosophe de Cordoue, qui s'appelle Ibn Hazm. Et voilà ce que dit Ibn Hazm. La raison qui fait que l'amour s'attache à la beauté extérieure, c'est que l'âme elle-même belle s'éprend de tout ce qui est beau et a du penchant pour les figures parfaites. Il écrit ça, il est cité par Moulay Bachir Belkaïd d'ailleurs, il écrit ça dans son traité le plus célèbre, qui a pour titre, très poétique lui-même, « Le collier de la colombe ». Alors, Ibn Hazm nous dit que l'âme s'attache à la beauté, que nous aimons la beauté. Hein. Et c'est la question que je voudrais poser là, dans cette partie finale de l'émission. Pourquoi est-ce que nous aimons tant la beauté ? Pourquoi est-ce que la beauté, les beautés, la beauté des corps, la beauté des objets, la beauté de la musique, hein, on vient d'être sensible à la musique, au chant de Nusrat, pourquoi est-ce que la musique, pourquoi est-ce que la beauté des œuvres d'art, ou d'artisanat d'ailleurs, pourquoi est-ce que les beautés de la nature exercent sur nous un tel attrait et une telle fascination ? Il y a un véritable mystère de ce qu'on peut appeler les raisons de l'attachement à la beauté. Et dans sa phrase, Ibn Hazm nous propose deux raisons. Il nous propose de réfléchir, de méditer un peu sur deux raisons pour lesquelles nous aimerions la beauté. La première raison, eh bien, elle est très simple. Il dit, souvenez-vous, dans la phrase que je vous ai citée, c'est que l'âme elle-même est belle. Autrement dit, ce qui se ressemble, s'assemble. C'est parce qu'il y a en nous de la beauté. Il y a au fond de notre âme quelque chose qui est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond de notre âme, quelque chose qui est beau ? Premier sujet de méditation. En quel sens est-ce qu'il y aurait au fond de l'âme humaine quelque chose qui serait beau ? Est-ce que ce serait quelque chose qui aurait rapport avec, je change de contexte de civilisation, avec les idées platoniciennes, les fameuses idées de Platon, c'est-à-dire qu'il y aurait au fond de nous un sens de la justice, un sens de la vérité, un sens du bien. Hein. En tout cas, nous dit Ibn Hazm, ce qui se rassemble s'assemble. C'est-à-dire que lorsque l'âme, lorsque notre âme et lorsque notre regard rencontrent la beauté à l'extérieur de nous, eh bien, l'attirance irrésistible que nous ressentons pour cette beauté est due au fait que nous y reconnaissons quelque chose de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir de la beauté extérieure. Elle nous attire parce qu'elle nous permet de nous ressouvenir de nous-mêmes. Il y aurait donc, dans l'expérience de la beauté, dans la vision de la beauté, dans la rencontre de la beauté sous toutes ses formes, le moment d'une connaissance ou d'une reconnaissance de soi. Nous retrouverions, dans le spectacle de la beauté, quelque chose que nous avons peut-être perdu de vue en nous-mêmes. Hein ? Et donc, si vous voulez, la vision extérieure de la beauté permettrait de retrouver la vue intérieure. La vue sur soi, la vue sur ce qui, au fond de notre intériorité, peut-être est beau. C'est en tout cas la première raison que nous donne ce penseur de Cordoue au XIe siècle. Et puis, dans sa phrase, il y a une deuxième raison qui explique pourquoi nous éprouvons un attrait aussi irrésistible pour la beauté. Il nous dit, alors là c'est peut-être un petit peu abstrait au départ, il nous dit c'est que l'âme elle-même belle s'éprend de tout ce qui est beau, ok. Et elle a, dit-il, notre âme, du penchant pour les figures parfaites. Alors là, ce qui est intéressant, et comme c'est un petit peu abstrait, il faut l'expliciter, ce qui est intéressant, c'est que du penchant pour les figures parfaites, ça veut dire que la beauté, c'est l'harmonie. Hein. La figure parfaite, c'est ce qui a les bonnes proportions, ce qui frappe par la qualité de sa composition, ce qui frappe par une grâce de l'ensemble. La beauté, c'est un paysage devant lequel on s'arrête, parce que on a le sentiment qu'il y a dans ce paysage quelque chose de parfait, justement. C'est-à-dire qu'on ne peut rien ajouter, on ne peut rien, ou il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Ou alors on regarde au loin une chaîne de montagne et on a l'impression que cette chaîne de montagne écrit une phrase, une belle phrase musicale, mais on ne sait pas dire pourquoi. Donc on est attiré par la beauté parce que elle nous donne à voir quelque chose qui est de l'ordre de la perfection. Mais là encore, ça nous renvoie à nous-mêmes, et je voudrais conclure là-dessus. Pourquoi est-ce que ça nous renvoie à nous-mêmes ? Parce que nous-mêmes, eh bien, nous sommes tout sauf parfaits, nous le savons. Nous sommes des êtres de manque. Nous sommes des êtres pétris de qualité, certes, mais de défauts. Et la beauté nous fait entrevoir la possibilité d'une perfection, c'est-à-dire la possibilité peut-être d'échapper à notre condition d'imperfection, à notre condition de finitude, où il nous manque toujours quelque chose, où nous ne sommes jamais aussi complets que nous voudrions l'être, aussi cohérents, aussi harmonieux, justement, que nous voudrions l'être. Eh bien, là encore, la beauté nous indique la voie de ce qu'on pourrait appeler un progrès intérieur ou un progrès spirituel. Pourquoi ? Parce qu'elle nous donne envie de cheminer vers la perfection. Elle nous donne envie de cheminer vers ce qui est le contraire du défaut, de la division intérieure, etc. Elle nous montre quelque chose qui est en harmonie à l'extérieur et qui fait signe donc vers quelque chose qui serait en paix à l'intérieur. L'harmonie extérieure nous fait rêver et nous fait espérer une paix intérieure. Il y a donc dans la beauté l'objet possible d'une grande contemplation. Un dernier ghazal de Nusrat pour l'ivresse. Nusrat Fateh Ali Khan, trop tôt disparu en 1997, je l'ai dit au début de cette émission, il nous a accompagnés dans nos méditations du jour. Je remercie aujourd'hui à la technique Alain Joubert, à la réalisation Franck Lilin et pour la production de cette émission, bien entendu, Dominique Compétissa. C'était Culture d'Islam, une émission d'Abdennour Bidar. Et dans quelques instants, nous retrouvons non pas le chemin des écoliers, mais la rue des écoles avec Louise Touré. Dayar ishq